الله، حياك الله يا أخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، طيب. Donc, Inch'Allah ou Ta'ala, un nouveau cours concernant le fiqh. Le fiqh, la jurisprudence dans les adorations. Et comme vous le savez, nous sommes toujours dans la présentation, plutôt dans l'entrée dans cette matière. Madkhal ila علم الأصول علم علم الفقه الفقه. Donc, dans le cours précédent concernant le fiqh, on avait commencé à parler sur les compagnons radiallahu anhum concernant la divergence. Les causes de divergence dans la jurisprudence entre les compagnons, leur voie, c'est-à-dire le chemin qu'ils prenaient, et leur manière d'y remédier, c'est-à-dire de remédier à la divergence. Quel était le chemin, la méthodologie qu'ils appliquaient et comment est-ce qu'il soignait, remédiait à la divergence? Taïb, deux petites secondes, l'ordinateur fait des siennes. Également, l'éducation et le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la divergence. Alors, parmi les fawaïd, le profit que vous allez tirer de ces informations concernant les compagnons par rapport à la divergence, c'est que comme on est censé nous-mêmes, ceux qui les suivent, qui viennent après les compagnons, quelle que soit l'époque, on est censé suivre les compagnons. Donc, ça va nous former, nous donner dans un premier temps un aperçu, une formation concernant le sujet de la divergence en général. Et vous constaterez que malheureusement, une grande partie de la communauté ne respecte pas et n'adhère pas et ne suit pas cette voie des salafs dans l'éducation et le comportement et la voie à suivre concernant la divergence dans le fiqh. اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الفقه والاجتهاد. Donc, on nous dit la divergence des compagnons qu'Allah les agrée dans la jurisprudence et le ijtihad. Le ijtihad, maintenant, tout le monde est censé savoir ce qu'est un ijtihad. Donc, nous allons poser la question, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est un ijtihad ? Si quelqu'un ne sait pas ce qu'est un ijtihad, il peut se manifester, inshallah ou ta'ala. Donc, tout le monde a compris ce qu'est un ijtihad. Salam alaikum, oui, moi s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Qui parmi les élèves peut nous expliquer ou expliquer à notre étudiante qu'est-ce que le ijtihad? Masha'Allah, Masha'Allah. C'est l'effort d'interprétation sur une question religieuse. Très bien, c'est une réponse. Effort d'interprétation, très bien. وفيكم بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. Très bonne réponse, très bonne réponse de nos étudiantes qui ont répondu. C'est l'effort d'interprétation concernant une question religieuse, c'est-à-dire qu'il y a le savant qui est spécialiste et qui réunit, ce n'est pas n'importe qui, hein. On appelle le mujtahid, c'est le savant qui va remplir toutes les conditions pointues scientifiques pour pouvoir émettre des avis religieux à partir des textes, à partir des règles, à partir de beaucoup de paramètres. Non. C'est ça le ijtihad. Justement, il y a une faïda ici. C'est que pourquoi le ijtihad, a été mentionné en même temps ici dans notre phrase, hein. C'est comme un sous-titre, en fait. C'est comme un sous-titre ici que nous avons. On a dit quoi? On a dit la divergence des compagnons, radiallahu anhum, dans la jurisprudence et le ijtihad. Alors, pourquoi le ijtihad est mentionné en même temps que la divergence? Celui qui trouve, Allah ibarak, hein. Celui qui trouve, Allah ibarak. C'est pas dur, mais c'est faut bien analyser, faut avoir de la compréhension. Alors, wa fikum barakallah, car l'effort d'interprétation, car le ijtihad quoi? La divergence vient après l'effort d'interprétation. Chapeau, très bien. Mashallah. Alors, je regarde, je n'arrive pas à mettre le chat en grand, mais la première réponse que j'ai eue, chapeau. Très bonne réponse. Attendez, je n'arrive plus à. Alors. Un petit peu. Ah, des fois, c'est embêtant ce chat-là. Alors, très bonne réponse. La première réponse, hein. Très, très bonne réponse. Très bien. Car l'effort d'interprétation, la divergence vient après l'effort d'interprétation. L'effort d'interprétation, la divergence, elle est issue de. Alors, je vais lire les autres. Car les compagnons ont fait. Alors, comme à chaque fois que quelqu'un rajoute une réponse, le chat il disparaît, il s'envole. Alors, je n'arrive pas à voir les réponses. C'est frustrant. C'est frustrant ce chat. Donnez-moi un petit peu de temps, s'il vous plaît, que j'arrive à voir si c'est bon. Ça commence à aller un peu plus, un peu mieux. Car l'effort, non, même pas, hein, même pas, j'en loupe la moitié. Alors, c'est un effort d'interprétation. C'est l'effort d'interprétation sur une question religieuse. Oui, c'est l'effort d'interprétation sur une question religieuse. Donc là, je suis carrément pas là où il faut. Parce que quand il y a divergence, les compagnons ont fait leur propre interprétation et donc personne n'interprète pas pareil. Arsent. Arsenti. Très bien, c'est exactement ça. Car les compagnons ont fait Ishtiel, tout à fait. Car ils interprètent, mais il se peut qu'ils n'aient pas la même avis. Très bien, très bien. Et bien franchement, Allah ibarak. Allah ibarak. Je le note ici, la divergence vient après l'effort d'interprétation. Naham. Naham. Très bonne réponse, hein. Excusez-moi, j'ai oublié les frères. Le chat, il m'a complètement. Bamstein. Alors. Alors. Car l'effort d'interprétation est de chacun, nous n'avons pas tous la même possibilité d'analyser. Très bien, Ariane Bay, très bien. Et que la divergence est la réflexion de chacun. Très bien, car des questions religieuses où il n'y a pas de preuves claires, ou bien au niveau des compagnons, ils n'ont pas tous forcément le Dalil à chaque question, vu qu'ils sont dispersés. Tout à fait. Ils interprètent premièrement, et ensuite vient la divergence sur ce quoi ils ont fait l'effort. Ahsantum. Eh ben, c'est bien, dis donc. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très bien. Je suis très très content, mashallah, parce que je pensais que c'est une question un peu technique. Je vous ai pas sous-estimé, ne vous inquiétez pas, hein, mais je sais quand une question elle est plus technique qu'une autre. Et là, franchement, tout le monde a su répondre. Tout le monde a su répondre. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont répondu ont su répondre. Tayyib. Alors ensuite, on nous dit. Le khilaf, la divergence, est né entre les compagnons. Alors, retenez bien cette information, elle est très importante. Très importante et attention, ça peut même être une réplique aux gens de l'innovation. Attention, attention. On nous dit ici, chez les gens de la Sunna, que les compagnons par rapport à tous ceux qui sont venus après, ils n'ont pas beaucoup divergé. Donc ceux qui viendront parmi les frères musulmans et autres qui vous diront « Ouais, les compagnons, ils ont divergé beaucoup, etc. » Non. Les compagnons, par rapport à tous ceux les siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup divergé. Il faut savoir que même si ceux qui sont venus après ont hérité de la divergence des compagnons, mais ils ont hérité de la divergence des compagnons. C'est comme si vous avez hérité d'un petit quelque chose et qu'après, vous allez en faire un... Parce qu'en fait, toutes les divergences qu'on a aujourd'hui, ça a été au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, les imams... Après, il n'y a plus les compagnons, il y a eu les imams, il y a eu des nouvelles questions, ils ont divergé sur ces nouvelles questions. C'est pour ça qu'on nous dit que les compagnons, par rapport à tous ceux qui les ont suivis, ils n'ont pas beaucoup divergé entre eux. Mais imaginez-vous que ceux qui les ont suivis, ils étaient forcément moins forts que les compagnons. Et ceux qui ont suivi les tabi'in, et les tabi'in, de moins en moins fort. À part certaines exceptions, Wallahu a'lam, certaines exceptions qu'on appelle vraiment, comme Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qui, si on l'appelle Cheikh al-Islam, c'est pas pour rien. Cheikh al-Fawzan dit de lui, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il était savant dans toutes les matières. Pourquoi croyez-vous que à chaque question religieuse, les savants ils disent Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a dit? Parce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a été envoyé, il a prouvé sa valeur. Il a été envoyé à une époque où il était tout seul contre une armée de philosophes et de gens de la dialecte, de munafiqine et de gens de l'innovation. Et je peux vous dire, ça se voit que c'est Allah qui l'a envoyé. Il lui a donné un potentiel. Il a fait des répliques écrites hein, aux chiites. Il a fait des répliques écrites. Rad ala al-mantiqiyin, réplique aux gens de la logique, réplique aux gens du kalem, c'est incroyable. Réplique aux chrétiens, les shubuhat des juifs et des chrétiens, les ambiguïtés. Cheikh al-Islam, c'est pour ça que je vous ai dit que peut-être lui, il était plus calé que certains tabi'i ou tabi'in, Allahu a'lam. Il était savant dans toutes les matières. C'était vraiment, incroyable. Voyez. Donc, on nous dit, je répète, que les compagnons, par rapport à ceux qui les ont suivis, ont peu divergé. وَذَلِكَ الرَّاجِعْ إِلَى رَاجِعْ إِلَى صَلَاحْ قَصْدُهُمْ أَوْ قَصْدِهِمْ فِي طَلِبِ الْحَقِّ. Alors, écoutez bien, pourquoi les compagnons ont peu divergé par rapport à ceux qui les ont suivis. Ce n'est pas un dénigrement de ceux qui les ont suivis, mais c'est une réalité qui va nous être exposée ici maintenant. Alors, on nous dit, cela revient, le fait qu'ils ont peu divergé les compagnons par rapport aux autres, cela revient leur but vertueux dans la recherche de la vérité. Leur but vertueux, saint, si vous voulez, dans la recherche de la vérité. Leur bonne compréhension et leur grande connaissance. Également, ils avaient une clairvoyance pure. Leur clairvoyance, elle était pure. Elle était dénuée de comment qu'on dit comme des choses impures mais des choses qui viennent à l'encontre de la pureté. Ça c'est leur clairvoyance. Et je vais vous rajouter avant de continuer, je vais vous rajouter de la faïda. Je vais vous rajouter de la faïda. Sur ce point, je vais vous rajouter des fawaïd. Que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, peut-être même la plupart. Et cela, bien entendu, est prouvé par le Kitab et la Sunna. Il y a des hadiths qui témoignent de ce que je vais vous dire. Il y a certains compagnons, ils ont eu ce qu'on appelle, attention, hein, certains compagnons ont eu ce qu'on appelle ils ont eu ce qu'on appelle une sorte de don, comme des sortes de pouvoirs venus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, ça existe. Attention, ça existe. Ce n'est pas, c'est autre chose que la prophétie, les miracles prophétiques, etc. C'est un don, c'est comme des pouvoirs. Quand vous le traduisez de l'arabe au français, ça donne, vous allez dans le dictionnaire, ça donne pouvoir. Oui, voilà, il y a ça, par exemple. Oui, il y a ce genre de caractéristiques. Il y a également, comment on appelle ça? Il faut que ça me revienne. Hein. Vous trouvez ça dans un des hadiths qui a été, dans un des hadiths des 40 hadiths nawawi où les savants ont expliqué. je ne sais plus si c'est Abu Bakr ou Omar, il avait ce qu'on appelle, c'est plus que de la clairvoyance. C'est plus que, je ne sais pas pour la Firasa, c'est plus que les pressentiments. Il se peut que ce soit Omar, oui, qui avait, dans un hadith, ils disent que Omar, il avait la bonne intuition, prémonition, on peut dire comme ça, oui. Il avait la bonne intuition quand il disait quelque chose, c'est il tombait dessus. Il tombait dans le mille. Et dans un hadith, le prophète, alayhi salam, a dit que Omar, il y a une parole sur Omar ou Abu Bakr, mais je crois que c'est Omar, oui. Comme quoi il a la bonne intuition, quelque chose comme ça, pressentiment, intuition, il a le bon. Quand il parle, il tombe dans le mille, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est pas du tout science de l'invisible où il y a des compagnons. Et il y a même des gens, attention, hein, ça peut exister à notre époque, à n'importe quelle époque. Ça, Allah Ta'ala, il le donne à des gens vertueux à qui il veut. Et je pense que je vous en ai déjà parlé une fois également. Ça, c'est dans un hadith, dans les 40 hadiths Nawawi, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a parlé de les intuitions que le croyant a dans son cœur. Il doit les suivre, parce que ça vient d'Allah Ta'ala. Lorsqu'on a une intuition, ou un mauvais, une mauvaise intuition, il faut savoir qu'il y a un hadith sur ça. Ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un don, une ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'au niveau de la clairvoyance, barakallahu fik, les inspirations également. Barakallahu fik, oui, j'avais oublié. Les inspirations également. Il y a des gens qui sont carrément inspirés, hein. Naam, l'inspiration. L'inspiration aussi, c'est plus dans les caractéristiques des prophètes, hein, on a vu la, comment ça s'appelle, al-wahi, la révélation. Mais attention, il n'est pas exclu que certains soient, MashaAllah, barakallahu fikum, certes, Allah accorde à la personne pieuse des intuitions qui lui permettent de distinguer qu'il y a entre les gens et de voir ce qu'il y a entre les gens et ce qu'il y a entre les gens lui permettent de reconnaître le menteur du véridique ou le pieux du pervers. Ça, c'est prouvé non seulement par les dalils, al-adilla, les preuves, hein, on ne dit pas les dalils, on met au pluriel al-adilla, les preuves, mais également, c'est prouvé, il y a des gens, ils peuvent vous le dire. Et ce ne seront pas des menteurs, on va croire, oh, toi, tu rentres dans les trucs de science de l'invisible, etc. Non. Alors les compagnons, imaginez-vous, hein, ils étaient purs, le cœur pur, etc. Eux, ils étaient beaucoup dans ces choses-là. طيب. وَلِأَنَّهُمْ مَارِسُوا الْإِجْتِهَادِ وَفَقَ الْأُصُولَ الَّتِي يَأْخُذُهَا عَلِي النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُبَشَرًا. Donc, également, un avantage qu'avaient les compagnons, c'est qu'ils ont pris les fondements directement du prophète. Vous voyez toutes les règles, les fondements de la religion, le peu qu'on a étudié ensemble. Alors dites-vous que c'est un atome, hein. Un atome, le grain d'un atome de poussière par rapport à tout ce qui reste à venir. Mais à savoir que les fondements de la religion, les règles de Usul Fiqh, l'explication du Coran, tout ça, les compagnons, ils les ont appris directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous le niveau de piété. Je ne sais même pas si on peut s'imaginer en réalité. Hein. On ne peut pas. Hein. On ne peut pas. Adafa ila zalik anna ijtihadahum kana waqi'iyan. Donc, par rapport à ça, les savants nous disent, par rapport à tout ce qu'on vient de citer concernant les compagnons, c'est-à-dire l'avance qu'ils ont sur les autres, le bagage, etc., c'est ce qui fait que leur effort d'interprétation, il était réaliste, 100% réaliste. Alors, qu'est-ce que ça laisse? Je vous donne une faïda, hein, je sors un peu du... À chaque fois, si vous préférez, dans le manuel, quand on parle de quelque chose, ça parle de quelque chose et qu'il n'y a pas l'explication détaillée, et que je sais que les étudiants peut-être ne vont pas comprendre ou quoi, tout de suite je donne une explication. Et là, par exemple, lorsqu'on dit que leur ijtihad, il était au compagnon, il était 100% réaliste, c'est-à-dire terre à terre avec le kitab ou la sunna. C'est-à-dire, ils étaient 100% dans le mille, le plus souvent. Alors, ça sous-entend quoi? Ben, par rapport aux autres qui les ont suivis, ça sous-entend quoi? Que les autres, ils ont plus de chances de faire du hors-sujet, ou, malgré qu'il a une récompense, le savant qui se trompe pas. Ils ont plus de chances d'être à côté, de faire du hors-sujet, de ne pas être 100% réaliste. Dans le réalisme. Dans le waqir, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on va trouver, alors c'est une des raisons qu'on va trouver que le khilaf, la divergence dans les époques qui ont suivi les compagnons, il y en a eu de plus en plus en plus. Pourquoi je dis c'est une des raisons? C'est parce que il y a eu beaucoup de raisons. Il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles questions religieuses qui sont apparues. Donc, forcément, il y a eu quoi qui en a découlé? Ben, des efforts des ijtihad, des analogies. Ça a eu de la demande, et voilà. Yajib ala masail haditha. La muftarada. Nahiyak an annahum. Tayyib, ya husun ala l'ijma' al-qulum. Alors, également, les compagnons. Les compagnons. On nous dit ici, ils avaient également deux avantages, les compagnons. Écoutez bien, parmi les avantages, pourquoi les compagnons, il n'y a pas eu beaucoup de divergences, ils tombaient souvent d'accord, etc. Parce que déjà, les compagnons, ils se consultaient entre eux, comme vous le savez. Les compagnons, ils se consultaient entre eux. Deuxièmement, les compagnons, ils veillaient à l'unité. Les compagnons, ils veillaient plutôt à l'unité, au rassemblement des cœurs. Ijtima' al-qulub. Les compagnons, ils veillaient au rassemblement des cœurs. Donc, je vais vous apporter encore une faïda très importante. C'est que les compagnons, ils étaient beaucoup unis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués à être unis. Même s'il y a pu avoir des désunions, des divergences, des problèmes, il y en a eu. Il y en a eu. Et les savants disent que ça, c'est inévitable. La divergence, les fitaines, les divisions, ça, c'est inévitable. Alors, je vais vous donner une grosse faïda ici. Je vais vous donner une faïda très importante ici et je vais vous donner un exemple. Je vais vous citer un exemple. Il faut que vous sachiez, que vous ayez la conviction profonde. On n'évitera pas les divergences. On n'évitera pas les fitaines. Alors là, c'est plus fort que les divergences. Les fitaines, c'est-à-dire les troubles, on les évitera pas. On n'évitera pas également les problèmes, la division, etc. Mais quelle est la recommandation? À partir du moment où c'est inévitable, on a pris conscience que c'est inévitable. Le problème, ce n'est pas est-ce que ça va se produire ou pas, Allahu a'lam, on sait que ça va se produire et que ça s'est déjà produit et que c'est en train de se produire. Ce qui fait toute la différence, et j'insiste ici à l'Institut, c'est comment tu vas te comporter face à tout ça. Comment vas-tu te comporter face à tout ça? C'est ce qui va faire toute la différence. Tu vas y goûter. C'est inévitable. Inévitablement, on va y goûter. Mais ce qui fait toute la différence, comment allons-nous nous comporter face à tout ça? La division, les divergences, les fitaines, fitna au pluriel, quelles qu'elles soient, l'argent, les femmes, les hommes, ce que vous voulez, toutes les fitaines, tous les tentations, les troubles, les guerres, tout ce que vous voulez. Comment? Ce qui fait la différence, c'est comment tu vas te comporter face à ça. Je vais vous donner un petit exemple. Il est petit, mais comme on dit, petit mais costaud. Petit mais costaud. Alors, un jour, et ce que je viens de vous dire, je le tire de Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah. Un jour, dans un de ses cours, Cheikh Abdelazak al-Badr, il raconte, vous savez que dans le comportement, Cheikh Abdelazak al-Badr, c'est un professeur de comportement, c'est incroyable. Donc, Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, il raconte, il dit, un jour, Omar, donc j'ai oublié pourquoi, j'ai oublié pour quelle raison. Omar, il s'est fâché contre Abu Bakr. Il n'a plus voulu lui parler. Omar, radiallahu anhu, deuxième calife de l'islam, s'est fâché contre Abu Bakr et n'a plus souhaité lui parler. Écoutez bien ce récit. C'est mon dalil pour vous confirmer ce que je viens de vous expliquer comme règle. Abu Bakr, regardez Abu Bakr radiallahu anhu, qui n'est pas le meilleur des croyants après le prophète pour rien du tout. Abu Bakr, il est parti chez Omar. J'ai oublié les détails, hein, mais ce que je me souviens, c'est qu'il ne l'a pas lâché jusqu'à se réconcilier. Il ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il soit réconcilié avec Omar, radiallahu anhu. Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, de ce que je me souviens, il nous dit que la morale... Alors, Cheikh Abdelazak al-Badr, il nous dit déjà, première faïda, c'est une faïda fondamentale. Il nous dit, regardez, si les compagnons, le shaitan, il a réussi avec les compagnons, qu'il y avait un compagnon, il ne voulait plus parler à un autre. Alors, qu'en est-il de nous? Ça veut dire, nous dit Cheikh Abdelazak al-Badr, que tu le veux ou tu ne le veux pas, la fitna, elle sera là. On aura des fitnes. Mais comment tu vas te conduire par rapport aux fitnes? Tu vas tomber dedans à amplifier, à plus parler aux gens, à parler sur eux, à les dénigrer, etc. Où est-ce que tu vas bien te comporter par rapport aux fitnes? Où est-ce que tu vas bien te comporter? Tu vas te comporter comme les compagnons. Tu vas pratiquer la réconciliation qui est mieux que les prières et les jeûnes surérogatoires, la réconciliation entre les gens. Est-ce que tu vas pratiquer la bonne pensée? Est-ce que tu vas pratiquer la fréquentation pour l'amour d'Allah ou Ta'ala ou pour la dunya? Si c'est pour la dunya, ça va pas durer. Hein. Rassurez-vous, hein, les fréquentations pour les biens mondains, ça ne dure pas. Mais les liens pour l'amour d'Allah, ça ne se brise. Les savants disent, Cheikh Al-Uthaymeen dit, il n'y a que la mort qui peut briser les liens pour Allah. Il n'y a que la mort. Sinon, les liens pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne se brisent pas. Ça, c'est dans, vous trouvez ça dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen lorsqu'il explique le hadith. Deux personnes qui se sont rencontrées et séparées pour Allah, qui seront sous l'ombre d'Allah le jour de la résurrection, là où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah Ta'ala. Eux, ces deux-là, qui se sont aimés pour Allah, le Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, il n'y aura que la mort qui pourra les séparer. Parce que dans cette dunya, ils se sont toujours, leur liaison, leur relation, elle était pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors, voilà. En gros, les compagnons hein, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils veillaient à l'unité. Est-ce que nous, dans leur cœur, hein, dans les cœurs, ils ne faisaient pas semblant. Hein. On a dit ici dans les cœurs, on nous dit ici dans les cœurs, parce que ce n'était pas en apparence complètement juste en apparence. Non, les cœurs. Le moteur, c'est le cœur. Walem. Alors là, ensuite, on nous donne une information fondamentale. Et aujourd'hui, si vous assimilez bien votre cours, et si vous avez bien compris, vous assimilez votre cours, il y a beaucoup de fawaïd pour pouvoir répliquer aux ambiguïtés des innovateurs et autres. Vous avez des éléments ici, analysez-les bien et vous pouvez vous en servir pour répliquer. Par exemple, ceux qui vous diront « Ouais, ben, les compagnons, c'est dépassé, maintenant on doit vivre à notre époque comme les frères musulmans. On doit vivre à notre époque, on doit faire des nouvelles fatwas, on doit revoir des nouvelles choses. Ben, » vous lui dites que la référence, c'est les compagnons et personne qui va suivre n'atteindra jamais le niveau des compagnons. Puisque Allah Ta'ala leur a fait les éloges, c'est eux le fondement, la base. Ils ont pris directement du prophète et ils ont transmis à tous ceux qui allaient suivre. Naam. Donc ça, c'est déjà une réplique. Ensuite, vous pouvez argumenter avec toutes les particularités propres aux compagnons. Hein. Parce qu'il y a des gens... Alors, je vais aller plus loin pour que vous compreniez vraiment à 100% cette fois-ci. Je vais aller plus loin parce qu'il y a des sectes qui ont fait passer leur aulia, les saints, ou alors leur cheikh, ou alors leur ce que vous voulez, leurs imams, au-dessus des compagnons, avant les compagnons. Pour eux, ils ont des, ce sont comme des, ils sont plus haut. Pour les soufis, leurs les saints sont plus hauts que les prophètes. Vous vous rendez compte? Ils ont plus de pouvoir, ils sont mieux auprès d'Allah, ils sont plus proches d'Allah que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Si je me souviens bien, Allahu a'lam. Attention, hein, leurs histoires de saints, là, ça fait complètement sortir de l'islam. Ils ont des pouvoirs, ils n'ont plus besoin de prier. Les saints, ils sont proches d'Allah, ils voient, ils connaissent l'avenir. A'ouzoubillah. Donc ici, vous avez des éléments pour leur répliquer. Il n'y a personne qui a le niveau des compagnons. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il faut bien se mettre ça. ولم يختلفوا في أصول الدين وماذا وقطعياته. Alors, regardez ce fondement également. Les cours de fiqh ici, franchement, ils sont très. Celui qui a bien compris, ça lui fait du bagage pour répliquer lui-même pour les choubouhats, les ambiguïtés. Franchement, ce sont des cours. Même moi, ça me fait révision. C'est bien. Franchement, c'est bien. Également. On nous dit, alors retenez bien ça, hein, parce qu'également il y a des sectes, c'est leur slogan. C'est leur slogan. Regardez, les compagnons ont divergé, donc on peut diverger. Hein. Écoutez bien. Alors, je voudrais vous ramener une faïda pour ceux qui se posent une question. Pourquoi le professeur, il a employé un ton, quand il a parlé des, il a imité les gens d'innovation, il a employé un ton un peu, comment dit-on, ironique ou je ne sais quoi. Les savants disent qu'on peut même aller, et franchement, c'est rare dans la religion qu'on ait le droit de se moquer. Mais les innovateurs, pour leur répliquer, on a le droit de prendre un ton moqueur, naam, se moquer de leurs bêtises. Les savants disent que c'est permis. Wallahu a'lam, lorsqu'on leur fait répliquer. Donc, ce fondement très important, on nous dit les compagnons n'ont pas divergé dans les fondements de la religion. Les compagnons n'ont pas divergé dans les fondements de la religion. Leur divergence n'avait pas lieu dans la vérité. Voilà, yadhar lahum nas. ثابت إلا يؤبرون إليه ويحسن بنا أن نورد هنا أمثلة لبعض المسائل الفقهية التي حصل فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. Alors ici, c'est une bonne chose. On va nous donner un petit exemple pour que vous ayez une image à l'esprit d'une des divergences entre les compagnons. Exemple de divergence qu'il y a eu à l'époque entre les compagnons. Alors, اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نفقة مطلقة ثلاثة إذا كانت حائلة أي غير حامل. Alors, فذهب عمر بن وابن مسعود وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر إلى أن للمرأة غير حامل إذا تلقت نفقة وسك. Alors, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, on va vous donner un exemple ici, hein, de divergence entre les compagnons. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé. Est-ce que la femme divorcée qui n'est pas enceinte a droit à la dépense de son mari? C'est comme ce qu'on appelle, c'est juste pour vous faire comprendre, hein, une parabole, c'est un exemple, c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui comme la pension alimentaire, tout ça. Un petit exemple comme ça. C'est pas 100% ça, mais ça ressemble. Est-ce que les compagnons ont divergé? Est-ce que la femme divorcée, elle a le droit à la dépense du mari? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a le droit? Il lui prend un logement, il lui paye un logement. Attention, hein, il y a une particularité. Pendant sa période de viduité, je crois qu'on dit comme ça en français, hein, l'idda. C'est la viduité, c'est les 4 mois et 10 jours. Barakallahu fikum, mashallah. C'est les 4 mois et 10 jours. Alors, les compagnons ont divergé. On nous dit ici qu'il y a Omar, Ibn Mas'ud et Aïcha qui disent que oui, elle a le droit. Elle a le droit à un nafaqa. Nafaqa, hein. Dans le sens général du terme, quand vous entendez nafaqa dans l'islam, dans le fiqh, hein, ça veut dire la dépense pour les autres. La dépense. Ici, le terme nafaqa, dépense, il est particulier. On parle d'un sujet particulier. C'est la femme qui est divorcée, qui est en période de viduité. Taïb. Alors, vous avez Omar ibn Mas'ud, Aïcha et Abdullah ibn Omar. Donc, c'est pas n'importe qui parmi les compagnons. Qui disait que oui, elle a le droit. Il doit lui payer l'appartement, la maison, ce que vous voulez, hein. Et il doit subvenir à ses besoins. Ensuite, vous avez d'autres compagnons, c'est pas non plus n'importe qui, c'est Ali, Ibn Abbas, Jabir, qui disent qu'il n'y a pas ni dépenses, ni logement pour la femme qui est divorcée. Alors, il y a beaucoup de divergences comme ça. Je sais, Allahu A'lam, qu'il y a également une divergence pour Allahu A'lam. Hein. La femme elle est divorcée et qu'elle est enceinte, le jugement il change, c'est plus pareil. Donc, on va pas entrer trop dans. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عدة الحامل متوفى عنها زوجها أو زوجها فذهب علي. Alors, il y a également, on nous donne un deuxième exemple, c'est à peu près la même. اختلف, les compagnons ont divergé également sur celle qui est enceinte et qui est en période de viduité dont le mari est décédé. Vous avez Ali ibn Abbas qui disent oui. Et ensuite, bon, c'est un peu compliqué ici. On va rester sur le. Je ne vais pas vous embrouiller. On va rester sur le premier exemple. Parce qu'après, on rentre dans les détails du fiqh et on va s'enliser, partir sur une autre. Quand on explique une question de fiqh, après, il faut en expliquer une autre, etc. Donc, un exemple, ça nous suffit. Il y a une autre question qui est très importante ici, après, à la suite. On va essayer, en 5 minutes, on va essayer de la mentionner. Alors, on nous dit « Aqsam al-khilaf al-fiqhi alladhi waqa bayna as-sahaba anhum ». Alors, ici, on va parler maintenant de la subdivision dans la divergence de la jurisprudence qui s'est produit chez les compagnons. Alors, je vais vous le faire plus simple. Les genres de divergences qui ont eu lieu entre les compagnons, il y a plusieurs genres, catégories. Ici, on va nous en mentionner deux catégories de divergences. Alors, la première, alors, vous imaginez, la première catégorie, que les compagnons, ils ont divergé. Ensuite, il y a des gens parmi les compagnons, les savants à l'époque, ils viennent avec un texte clair qui dissipe toute divergence. Ça, c'est le premier genre de divergence. C'est-à-dire qu'au début, ils ont divergé, les compagnons, ils divergent, et ensuite, ils ont découvert qu'il y avait un texte qui vient donner, c'est-à-dire faire disparaître la divergence. Ah ben, comme il y a un texte qui nous montre que telle position, elle est prépondérante et c'est fini la divergence. Ça y est, il y a un texte qui a parlé pour tout le monde. Vous comprenez, ça, c'est la première catégorie. Je vais vous la lire en arabe pour ceux qui comprennent un peu l'arabe. J'ai fait une traduction. J'ai traduit le sens, ce qui est le plus important parce que c'est technique à expliquer. الخلاف الذي يرتفع بظهور النص بين. C'est-à-dire la divergence qui dissipe, qui se dissipe, qui disparaît après l'apparition d'un texte, d'un texte clair. فتجتمع كلمتهم على الرأي واحد. À ce moment-là, leur parole, elle se réunit sur une seule position. مثال الخلاف الذي وقع في حكم الدخول على بلاد في طاعون. Alors, on nous donne même un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ici, on nous donne un exemple, on nous dit comme la divergence qui est apparue à l'époque des compagnons, il y a une divergence qui est apparue quant au fait d'entrer dans une contrée, un pays où il y a la peste, où il y a un virus, il y a la peste. Il y avait divergence entre les compagnons. Il y en a qui disaient tu peux rentrer, il y en a qui disaient quand tu es dedans, tu peux plus sortir. Il y avait une divergence. Jusqu'au jour où il y a un compagnon qui n'était pas là lors de la divergence et il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, ce compagnon, il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi lorsque vous êtes. Alors, ce compagnon, c'est Abdurrahman ibn Auf. Il était absent. Il avait des choses à faire. Qala inna indi min hadha ilman. Il a dit, quand il est revenu, il a dit, il y avait une divergence entre les compagnons. Il a dit, moi, j'ai une connaissance sur ça. J'ai entendu le messager d'Allah dire, lorsque vous entendez dans une terre qu'il y a la peste, les virus, n'y entrez pas. Et si vous êtes dans une terre où cela s'est produit, n'en sortez pas. Traduction rapprochée du sens. Puis Omar a dit, parce qu'il y avait divergence entre les compagnons. Omar, après que Abdurrahman ibn Auf ait mentionné ce hadith, il a dit quoi? Alhamdulillah, alhamdulillah, louange à Allah. Puis il est parti. Ça veut dire c'est bon, c'est clair. Le prophète, il a parlé, c'est bon, c'est clair. Vous voyez? Ça, c'est la première forme de divergence entre les compagnons. Et ensuite, vous avez la deuxième forme de divergence, et je crois que c'est celle qu'on connaît, nous, qui est la plus répandue. C'est lorsque la divergence, elle n'est pas levée. Elle reste. Elle perdure. Il y a divergence et ça perdure. On nous dit, c'est lorsque les compagnons, ils ont tous les deux un dalil, une preuve, des textes, etc. Alors les compagnons ont divergé dans des questions de jurisprudence comme ça. Saïd ? Alors, le cours, Inch'Allah, touche à sa fin. Dans le prochain cours, c'est pas terminé, hein. Dans le prochain cours, on nous dit les causes les plus connues de la divergence dans le fiqh qui s'est produit chez les compagnons. Les causes, c'est-à-dire quelles sont les causes, pourquoi ils ont divergé les compagnons. On citera dans le prochain cours, et je pense que, c'est, que comme c'est très intéressant, il y en a qui sont déjà pressés de savoir. Inch'Allah, patientez, on étudiera ça dans le prochain cours. Inch'Allah ta'ala. Pour ceux qui ont des questions, il reste 5 minutes. Sinon, on se donne rendez-vous. Pour vous, ça sera, je crois, 21h. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre solution parce que vous avez, vous, la, moi, j'ai la prière à moins 10, vous avez la prière à et demi. Donc, voilà. Ça sera pour le cours. Quel cours? La croyance. Pour ceux qui étudient la croyance. Donc, idha kana istifsar. Non, s'il y a des questions, notre frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous redire les compagnons? Les compagnons qui. Quels compagnons? À quel sujet? Qui ont dit qui concernait le fait d'avoir une. Ah, non. Pour la femme. Pour la femme enceinte, on n'a pas tout le détail ici. Hein. On n'a pas tout le détail. C'est le deuxième exemple, mais je préfère pas le mentionner parce qu'il n'y a pas tous les détails. Je préfère vérifier avant. Mais pour le premier exemple, c'est pour la femme qui n'est pas enceinte. Qui n'est pas enceinte et qui est divorcée et elle est en période de viduité. 4 mois et 10 jours. Il y a une divergence entre les compagnons. Il y a donc Omar, Ibn Mas'ud et Aïcha et Abdullah ibn Omar qui disent que le mari qui est dit qu'il l'a divorcé, il doit lui donner un logement et lui donner de quoi subvenir à ses besoins. Et ensuite, il y a Ali ibn Abbas, Jabir qui disent que non, la nafaqa laha wa la sukni. Elle n'a pas de, ils disent, elle n'a pas de pension de, hein, d'argent et pas de logement. Eux, ils voient ça. Divorcer, c'est divorcer. Wallahu a'lam. Naam. Wa ahkam. Donc, s'il n'y a plus de questions, elle n'est pas enceinte. Barakallahu fikoum. Ouais, ils disent, c'est celle qui n'est pas enceinte. Hein. Aï, ghayr hamil. C'est celle qui n'est pas enceinte. C'est un autre jugement, celle qui est enceinte. J'ai pas tout en tête. Et ici, il n'y a pas tous les éléments, mais je me souviens, celle qui est enceinte, il y a encore des autres paroles de savants. Si vous voulez, je peux essayer de me rafraîchir la mémoire et vous faire un petit exposé. Il n'y a aucun souci. Si ça intéresse des élèves, on mettra ça sur les groupes. Il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il y a un autre jugement. Il me semble même qu'il y a divergence pour celle qui est enceinte. Ce que je me souviens, c'est qu'il y a des savants qui disent celle qui est enceinte, c'est une obligation, il doit subvenir à ses besoins et lui donner un logement, etc. parce qu'elle est enceinte. Naam. Wallahu a'lam. Mais je crois qu'il y a divergence. Donc si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. C'est une mas'ala qui est très importante. Hein, qui est, d'ailleurs, moi j'ai un petit peu perdu le souvenir, mais on m'a déjà posé des questions sur ça. Hein, et j'ai répondu. Hein. En allant chercher, j'avais trouvé les réponses, mais c'est sorti un peu... D'accord, ok, Inch'Allah, wafik barakallah. Vous voyez que dans le fiqh, on apprend des choses et on peut être confronté à ces questions-là. Je le souhaite pas pour vous, mais même dans l'entourage. Moi, je me souviens, on m'a posé plusieurs fois, il me semble, la question. J'ai eu affaire à ça. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens hein, qui nous posent des questions, hein, pas uniquement à l'institut, et des fois, c'est des questions comme ça. Il y a des questions de tout ordre. Hein. Alors, je ne dis pas que j'ai réponse à tout, mais on essaye d'aider la communauté. On est capable, alhamdoulilah, d'aller voir ce que disent les ulama. Wa fikum barakallah, et on va voir ce que disent les ulama, et puis après on transmet. On transmet. Mais il faut que vous sachiez une chose très importante, c'est quand vous posez une question à un étudiant, l'étudiant, il se peut, hein, qu'il ait une position, lui, il a pris une position qui, par laquelle il est convaincu. Alors, si c'est un étudiant qui maîtrise bien tout ça, il va vous dire qu'il y a une divergence, il va bien vous expliquer, et après, il va vous dire, moi, j'ai cette position-là. Donc, comme vous lui avez demandé à lui, vous devrez prendre cette position. Il ne faut pas aller voir un autre shir après, ça ne se fait pas. Et si vous allez demander à un autre étudiant ou à un autre shir, peut-être que lui, il a une autre position, il y a une divergence, et il va vous donner une autre position. Je vous ai déjà donné l'exemple de la janaza pour le bébé. Le laver, faire la prière pour lui, le bébé. Cheikh Al-Albani, il dit, le bébé, tu l'enterres comme il est. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de lavage mortuaire, etc. Et il y a d'autres savants, il y a une autre position, il y a une divergence qui disent non. Il faut le laver et prier sur lui. Donc, en fonction du savant que vous allez voir, eh ben, il vous donnera une réponse différente. Il me semble que c'est uniquement pendant la période de viduité, mais j'ai oublié. J'ai également oublié. Vous savez, le fait qu'il y a plein de questions et je ne les retiens pas toutes. Je ne peux pas toutes les retenir. Donc, quand c'est comme ça, on me pose une question où j'ai pas tout retenu, où j'ai oublié certains éléments, ben, je vais vérifier. C'est pour ça que là, je vous ai dit, si vous voulez un exposé sur cette question, ça vous intéresse, je vais aller vérifier, je vais vous faire un et je vous ferai un retour, Inch'Allah, sur ce sujet. Y aurait-il des questions? Barakallahu fikoum. D'ailleurs, si vous voulez un détail, vraiment quelque chose de détaillé, on peut regarder même la position des quatre imams sur ça. Hein. C'est pas un souci. Hein. La position des quatre imams. Des fois, il y a la majorité. Ça veut dire qu'il y a trois savants qui ont une position et il n'y en a qu'un seul qui dit non, je ne suis pas d'accord. C'est ça qu'on appelle là, bon, déjà la divergence, mais el-jumhur, la majorité. La majorité, ça veut dire qu'il y en a trois contre un. C'est ma façon de parler, attention, ce n'est pas une bagarre. Il y en a trois contre un, ça veut dire majorité. Taïb. Et quand il y en a deux contre deux sur les quatre imams, on ne dit pas qu'il y a la majorité. On dit qu'il y a une divergence. Il y en a deux qui disent ça et deux qui disent ça. Mais quand il y en a un, il est tout seul et les trois autres, ils prennent le dessus, on appelle ça là, el-jumhur, la majorité. Et les savants disent que le jumhur, ya'tabar, c'est-à-dire il est considéré. Un étudiant, il doit privilégier d'abord le jumhur, la majorité. Quand vous entendez majorité des savants, eh ben, prenez la majorité, c'est plus sûr. Les savants disent que prendre la majorité, c'est plus sûr. Vous voyez? Voilà. Apparemment, on a Stafid quand même aujourd'hui. Hein. On a Stafid. Hein. Ça m'a rafraîchi également, moi, la mémoire sur beaucoup de choses dans le fiqh. Et c'est pour ça, hein, je vous conseille. Étudiez le fiqh avec les gens de la sunna. Vous n'allez pas apprendre ça avec les gens de la bid'a ou les ignorants ou les imams de YouTube, etc. Hein. Vous n'allez pas apprendre ça. Ils vont vous apprendre n'importe quoi. Hein. Ils vont vous apprendre n'importe quoi. Là, ce qu'on apprend, c'est le fiqh des salafs. Hein. Des salafs, pas le fiqh des khalafs. Le fiqh des salafs, c'est le fiqh des compagnons. Et le fiqh des khalafs, c'est le fiqh des déviants. Mais attention, le terme khalaf, des fois, il veut dire ceux qui sont venus après. Donc, c'est en fonction du contexte que le terme khalaf, il sera louable ou blâmable. Vous voyez la langue arabe? C'est une petite faïda pour les arabophones, ça. Le terme khalaf, tantôt il veut dire ceux qui sont venus après, et tantôt il veut dire les déviants, ceux qui ont dévié de la voie des salafs. Sur ce, s'il n'y a plus de questions, je vous dis ou à demain ou à tout à l'heure, en espérant qu'Allah vous protège tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des étudiants qui nous donne la science utile et que nous la mettions en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah.